Vous êtes-vous déjà demandé à quoi pouvait bien penser une plante ? Qu'est-ce qu'être une plante ? La question peut sembler saugrenue et pourtant on peut se demander en quoi l'homme diffère fondamentalement des plantes. On entend parfois parler de communication, de sensibilité, voire d'intelligence dans le monde végétal. Qu'en est-il vraiment ? Quel est notre rapport aux plantes ? On en parle avec mes invités, le chercheur Jacques Tassin et le jardinier Gilles Clément. Et j'attends vos messages et vos questions dès maintenant sur franceinter.fr et sur le mot-clé la TAC. À la une de la science aujourd'hui, l'enquête qui se précise sur la propagation du virus du sida en Amérique du Nord. Bonjour Agnès Fèvre.
Bonjour Mathieu. Et oui, de l'Afrique, où il a surgi aux États-Unis, le virus du sida est passé par la Caraïbe et on en apprend aujourd'hui un peu plus sur ce cheminement. Mais ce qui se confirme surtout, c'est que le patient zéro, ce premier cas détecté aux États-Unis au début des années 80, n'est pas celui qu'on croyait.
Et puis comme tous les jeudis, nous retrouverons le docteur Dominique Dupagne pour sa chronique de santé polémique, consacrée aujourd'hui à un vrai sujet polémique, les Français et la vaccination. Céline Hila réalise cette nouvelle Tête au carré préparée par Chantal Le Montagnier.
La Tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
À quoi pensent donc les plantes ? Dossier de l'émission dans quelques instants avec mes invités, le jardinier Gilles Clément et le chercheur Jacques Tassin. Bonjour à tous les deux. Bienvenue.
Bonjour.
Jacques Tassin, est-ce qu'on peut dire que les plantes possèdent des sens comme nous les humains ?
Pas tout à fait. Il ne faut pas faire de projection entre les plantes et les humains. C'est bien le problème. Néanmoins, il y a mille manières de s'émerveiller des plantes sans pour autant qu'il faille qu'elles nous ressemblent.
Ouais. Gilles Clément, on va parler de sensibilité, d'intelligence végétale. Il faut apprendre à connaître tout ça aujourd'hui. C'est un monde qu'on ignore au fond. Hein.
Oui, c'est un monde qu'on ignore. J'appelle ça le génie naturel.
Ouais.
Ça a été mis au point pendant des millions d'années, avant même que nous ne soyons sur cette planète. Et nous n'en connaissons qu'une infime partie, presque rien.
Oui.
Tout est à apprendre.
Et pourtant, c'est une part extrêmement importante et largement majoritaire de la biomasse. On va le voir avec vous dans quelques instants pour ce grand voyage dans l'intériorité des plantes, avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent sur le site de l'émission. Et à la une de la science aujourd'hui, une enquête scientifique sur les voies de propagation du virus du sida aux États-Unis.
Avez-vous eu des relations sexuelles dans cet endroit ?
Oui, une fois. Je crois que c'était en 84-85.
Étiez-vous informé en 84-85 qu'il existait une maladie fatale connue sous le nom de sida et qu'on pouvait la contracter lors de rapports sexuels ?
J'avais entendu parler d'une chose, la peste homosexuelle, le cancer gay. On ne savait pas comment ça s'attrapait, ni qu'on en mourait.
Voilà, extrait du film Philadelphia, sorti en 1994. Et Gaëtan Dugas, qui était un steward québécois, qui avait été surnommé le patient zéro dans les années 80 aux États-Unis. Il était ainsi celui par lequel le virus du sida s'était propagé en Amérique du Nord. Et bien, cette hypothèse est aujourd'hui sérieusement remise en cause par une étude parue dans Nature. Et cette étude a été réalisée par des biologistes moléculaires de l'Université d'Arizona. Pour en parler avec nous, au bout du fil, le professeur Éric Delaporte. Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de maladies infectieuses à l'Université de Montpellier. Est-ce qu'on peut dire qu'avec cette publication scientifique, Gaëtan Dugas, donc le fameux patient zéro, est définitivement blanchi, Éric Delaporte ?
Oui, oui, oui. Et en fait, dès le départ, la stigmatisation de Gaëtan était une erreur. Parce qu'en fait, et le film de Philadelphia le remonte très bien, dans les années 83-84, on ne savait pas si c'était une maladie sexuellement transmise encore tout à fait. Et dans la publication originale, il y avait un papier qui est sorti en montrant les liens entre différents patients gays ayant le sida. Et pour essayer de montrer qu'il y avait une transmission potentiellement sexuelle. Et sur ce diagramme, il y avait les patients nord-américains, les patients de Los Angeles, ils avaient un code LA, NY, et puis il y avait un patient O, et non pas un patient zéro. Et le patient O, ça voulait dire simplement out of USA, donc vivant en dehors des États-Unis. Et le hasard a fait qu'il sera plus ou moins au centre de ce diagramme. Et médiatiquement, il est parti comme étant le patient zéro. Voilà. Donc déjà, au début, le patient zéro n'était pas réellement le patient zéro, mais ça avait pris de l'ampleur.
Donc ça, c'est une erreur qui a été démontrée par une autre étude, notamment celle d'un historien de l'université de Cambridge. Mais si on revient à l'étude justement de ces spécialistes de biologie moléculaire de l'université d'Arizona, en quoi elle contribue, celle-ci, un peu plus à blanchir encore une fois Gaëtan Dugas, victime donc d'une erreur ?
Alors c'est, oui, alors en fait, l'intérêt de cette étude, c'est qu'elle s'est positionnée sur des sérums antérieurs à la connaissance de l'épidémie SIDA. Les premiers cas, ce sont les années 80, et là, ils ont été récupérés des sérums datant des années 78, correspondant à des prélèvements faits chez des hommes suivis dans le cadre d'une cohorte sur les virus de l'hépatite B. Et donc à cette époque, ils retrouvent déjà des séropositifs parmi ces hommes, environ 4%. Et ils arrivent, et c'est ça qui était le côté le plus élégant de ce papier, à amplifier des parties du virus, donc des virus vraiment tout à fait originaux par rapport à l'épidémie nord-américaine, et à montrer que ces virus, on arrive à faire des arbres généalogiques de ces virus, des analyses phylogéniques, et montrer que finalement les virus les plus anciens aux États-Unis sont des virus ayant contaminé avant tout la communauté gay new-yorkaise, à partir de contaminations ayant eu lieu en Haïti, et puis de New York, Los Angeles, etc. Donc en fait, ça repositionne un peu le mode de contamination qui s'est passé dans les années 70 aux États-Unis.
Donc c'est-à-dire qu'ils arrivent à montrer que ce mode de contamination a eu lieu avant en fait ce fameux patient zéro.
Voilà, ou que le patient zéro était infecté par une souche qui s'est diversifiée dans un deuxième temps et que le patient zéro avait été contaminé dans un deuxième temps.
Mais faut bien voir qu'à cette
voilà. Donc, mais il n'y a pas une question. Oui, mais en même temps, c'est pas une question de faute. On est dans une époque où on ne connaissait pas cette maladie sexuellement transmise. On est à une époque également de grande liberté sexuelle, hein, dans les années 70, et où finalement n'importe quelle maladie sexuellement transmise pouvait se transmettre de façon exponentielle. Et c'est ce qui s'est passé dans la communauté gay dans les années 70, avec les premiers cas visibles dans les années 80.
Professeur Delaporte, comment on arrive justement à réaliser une telle enquête sanitaire? Quelle technique a été mise au point là dans ce travail?
Alors, c'est des techniques qui sont connues, des types d'amplification génique. Là, la difficulté, c'était que c'était des très vieux plasmas avec de l'ARN très dégradé. Donc, il a fallu faire un ensemble d'amorces, hein, des primers très nombreux pour essayer d'amplifier des morceaux du génome et de reconstituer le génome. Alors, une fois qu'on a la séquence, eh bien, à ce moment-là, on fait tourner des programmes d'analyse moléculaire pour voir où la souche se positionne par rapport à l'ensemble des souches circulantes. Et il faut savoir que au niveau de la diversification des virus, la souche nord-américaine est ce qu'on appelle un groupe B, et de ce groupe B, on arrive à aller vers l'ancêtre commun à tout ce groupe B, puis après on arrive à l'ancêtre commun du groupe B avec les autres groupes qui circulent dans les autres continents, et puis finalement on arrive à la souche ancestrale qui est passée du singe à l'homme dans les années 1920.
C'est un arbre généalogique au fond, ce que vous nous décrivez.
C'est extraordinaire, c'est de la généalogie, on arrive totalement à retracer les différentes étapes de transmission et la diversification du virus dans les circuits de contamination, et on va voir chez les gays un type de souche, chez les Africains d'autres souches, en Asie un autre type de souche. Voilà. Donc on arrive vraiment à retracer les circuits de contamination.
Et justement, vous arrivez à faire plus de liens cette étude permet de faire plus de liens justement entre patients, entre groupes de virus?
Oui, alors on savait déjà que l'épidémie nord-américaine provenait d'Haïti, et les Haïtiens s'étaient contaminés dans les années 60 à Kinshasa. Donc on connaissait déjà ces étapes, hein, à la fois sur un plan épidémiologique et puis les historiens de la santé également. Et puis après, c'est vrai que Haïti a été d'emblée, dans le cadre de l'épidémie, stigmatisé. On parlait à l'époque, dans les années 80, des 4 H. Les Haïtiens, oui. Les hémophiles, contre la transmission sanguine, les homosexuels, et puis les héroïnomanes. Hein, donc c'était la stigmatisation au début des groupes les plus atteints par l'épidémie. Alors après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que dans les années 60, Haïti a été également l'enjeu, il y avait plusieurs facteurs, hein, sur Haïti, et qui ont été à la fois le tourisme sexuel, hein, nord-américain, il y a eu beaucoup de trafic de sang, hein, il y avait une société, Hemo Carabine, américaine, qui exportait 6000 litres de plasma par mois. C'est des chiffres hallucinants, mais c'est dans les archives qu'on les a retrouvés. Et puis il y a également un facteur migratoire. Ce que je veux dire par là, c'est que on peut pas stigmatiser Haïti, et c'est un peu le problème de ce papier. C'est-à-dire que il y a l'origine d'un virus. Le virus revient d'Afrique. L'Afrique, ça se développe à Kinshasa, Kinshasa à Haïti, Haïti se développe, et puis après, il y a l'épidémie nord-américaine. Mais ce qui va faire l'épidémie, c'est l'environnement. C'est comme je disais, la transfusion sanguine, la liberté sexuelle, etc., etc. Et donc, l'épidémie est liée à des facteurs environnementaux nord-américains, même si le virus vient d'Haïti. Et ça me paraît très important parce que dans un précédent papier, Haïti avait été très blessé par le fait que...
Stigmatisé là aussi.
Voilà, les États-Unis disaient, voilà, le sida, c'est à cause d'Haïti. La maladie, c'est toujours la faute de l'autre. Donc, c'est des facteurs épidémiologiques liés à un continent, à un moment donné, sans stigmatiser un groupe ni un autre.
Éric Delaporte, pour terminer très rapidement, en quoi c'est important de remonter à la source du virus comme ça? À part évidemment pour la connaissance scientifique, hein.
Alors il y a la cause, mais c'est surtout comprendre pour prévenir, parce que ce qui était extraordinaire dans l'histoire de l'épidémie de sida, on parle toujours de maladies émergentes, il faut bien voir que là, en 30 ans, 60 millions de personnes ont été contaminées dans le monde, à partir d'un seul épisode de transmission du singe à l'homme dans les années 1920. Donc comprendre comment tout l'enchaînement des coïncidences qui ont fait qu'on a pu contaminer 60 millions de personnes en 30 ans est tout à fait important pour tenter de prévenir d'autres maladies émergentes ayant un tel impact sur la santé publique.
Merci beaucoup professeur Éric Delaporte. Vous êtes donc à Montpellier et puis donc ce papier qui est sorti dans la revue Nature aujourd'hui même. Merci Agnès.
Merci.
Et à demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, subir un choc violent et se mettre soudainement à parler une langue étrangère, eh bien c'est ce qui est arrivé à un jeune footballeur américain de 16 ans. Plongé dans le coma après avoir reçu un choc à la tête lors d'un match, il s'est réveillé en parlant couramment espagnol, langue qu'il maîtrisait pourtant à peine. L'explication, eh bien, elle est appelée le syndrome de l'accent étranger. Lorsque la zone de la langue maternelle est affectée, eh bien le plus souvent à la suite d'un choc ou d'un AVC, le cerveau active une autre zone, celle d'une langue étrangère, en stimulant la mémoire. Un bel exemple de plasticité cérébrale. Peut-être deux lunes de plus pour la planète Uranus qui en compte déjà 27. C'est en analysant des photos prises par la mission Voyager il y a environ 30 ans que des astronomes de l'université de l'Idaho ont observé une quantité de matière à proximité des anneaux d'Uranus. Il pourrait donc s'agir de lunes mineures de moins de 14 km de diamètre. La planète Uranus n'a donc pas fini de dévoiler ses mystères. Et puis voler 10 mois d'affilée sans se poser, 10 mois dans les airs, eh bien c'est une prouesse extrême observée chez les martinets déjà en 1970, mais que des chercheurs de l'université de Lund en Suède viennent de confirmer. Ils ont attaché à 13 martinets, un journal de micro-données. Eh bien, résultat des observations, les oiseaux ne se sont posés que 2 mois dans l'année pour se reproduire. Allez, on va dans la tête des plantes dans un instant.
C'est le retour de la tangerine. by the millions. God divine.
Tangerine, Alain Vega avec Christophe sur France Inter.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Mettons-nous à hauteur des plantes cet après-midi dans le dossier de l'émission avec mes invités Jacques Tassin et Gilles Clément. Jacques Tassin, vous êtes chercheur écologue au CIRAD, c'est le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, et vous publiez donc « À quoi pensent les plantes ?». C'est un très beau titre hein, chez Odile Jacob, très énigmatique également. Gilles Clément, vous êtes jardinier, ingénieur horticole, paysagiste, écrivain, professeur émérite à l'École nationale supérieure du paysage de Versailles, et vous avez publié entre autres « Paysages, jardins et génie naturel » aux éditions du Collège de France avec Fayard, et les auditeurs nous rejoignent avec déjà des questions pour vous sur franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque. À quoi pensent les plantes, Jacques Tassin? Ça laisse entendre qu'une plante puisse avoir quelque chose qui ressemble donc à quoi? Une forme d'intelligence, voire même à un cerveau?
Ben non. Non, je crois qu'il faut être très clair là-dessus. Ouais. Ça sert à rien de tenter des investigations dans ce sens-là. Les plantes n'ont pas de cerveau, les plantes ne pensent pas. Le titre que j'ai choisi est un titre métaphorique, tout simplement pour aller vers l'intériorité végétale, se trouver, comme vous le disiez, à la hauteur des plantes.
Oui, mais il y a quand même des choses extrêmement intéressantes à étudier dans le domaine de la communication, de la sensibilité.
Tout à fait, qui... pour l'instant, nous dépasse même encore. Même si les connaissances avancent, il reste encore beaucoup à comprendre de la manière dont une plante fonctionne, de la manière dont elle perçoit son environnement, et puis de la manière dont elle l'est, sachant qu'il y a des différences fondamentales, mais qui n'empêchent pas l'émerveillement.
Oui. Alors les plantes, justement, dans le livre de Jacques Tassin, Gilles Clément, il y a ce chiffre qui est indiqué, qui est absolument inouï. Les plantes, c'est 99% de la biomasse terrestre. 99%.
Oui.
Et on passe à côté la plupart du temps, finalement, sans les connaître.
Voilà, on les connaît pas. Peut-être les connaissait-on mieux à l'époque où il y avait une partie de la population rurale qui s'intéressait à une diversité parce qu'elle en avait un usage.
Oui.
Aujourd'hui, on vous demande de cultiver une espèce, monoculture ou monoélevage, et puis on tue toutes les autres, on les tue, hein. Puisque c'est pas la peine de les chercher à les comprendre, à s'intéresser. Mais cela dit, même indépendamment de ça, on a à essayer de s'intéresser, y compris à celles que l'on ne cultive absolument pas du tout, et qui sont des territoires d'accueil à une diversité générale, plantes et insectes, oiseaux, etc., et qui nous servent, nous jardiniers, d'auxiliaires.
Donc c'est une omniprésence, hein, ces plantes, au fond.
Alors c'est vraiment une omniprésence. On serait sans doute très très malheureux sans elles. Elles nous fabriquent de l'oxygène. Elles sont autotrophes. Elles sont capables de faire leur nourriture à partir de l'énergie du soleil. Nous sommes des dépendants. Nous sommes des prédateurs. Nous mangeons, nous attrapons les choses. Il faut aller chercher la nourriture. Nous sommes finalement en faiblesse par rapport à elles.
Ça se nourrit de lumière, Jacques Tassin, une plante.
Voilà, principalement. C'est la force première de la plante, c'est de se nourrir de lumière. Donc d'être très sensible, évidemment. Nous avons, puisque vous parliez de comparaison possible avec les humains, donc nous avons 4 photorécepteurs dans notre rétine. Les plantes disposent d'au moins 11 photorécepteurs, donc elles ont une perception de la lumière qui est beaucoup plus fine que la nôtre.
Ouais.
Et c'est effectivement à partir de cette lumière qu'elles sont capables de produire la matière organique qui est à l'origine de toute la vie sur Terre. Et Francis Ponge disait que les animaux sont comme surajoutés au monde, finalement.
Oui, c'est ça, dans ce milieu végétal.
Oui, voilà.
Paul demande, est-ce que tous les végétaux, justement, perçoivent leur environnement? Gilles Clément.
Je ne sais pas, mais moi, quand j'ai commencé à travailler sur le jardin du domaine du Rayol, la question du feu est arrivée extrêmement vite, puisque c'est un biome méditerranéen et que là, il y a des incendies répétitifs dans toutes les zones méditerranéennes du monde, hein, que ce soit l'Afrique du Sud, le Chili central, l'Australie ou quoi. Et le feu est arrivé avec, comme sujet principal, alors c'est une question environnementale pour les plantes et les animaux. Quelques animaux en souffrent et meurent. Celles qui n'arrivent pas à échapper, mais pratiquement aucune pyrophyte, non. parce que elles sont pyrophytes, ce sont les plantes qui vivent avec ça. Elles se sont façonnées au cours de l'évolution par rapport au feu. Elles ont besoin du feu, par exemple, pour que soit levée la dormance des graines. Ça m'a éveillé sur, c'est vieux, c'est déjà cette histoire pour moi, mais sur cette relation qu'il peut y avoir entre une plante et quelque chose de l'environnement. Ça peut être un animal, ça peut être une autre plante. Donc toutes ces choses sont à apprendre, nous ne les connaissons que très mal.
Jacques Tassin, donc sur la perception de l'environnement par les plantes.
Les plantes, je dirais, sont plus investies dans leur environnement que nous. Animaux, le sommes. Nous, nous sommes renfermés sur nous-mêmes.
On se détache de notre environnement.
On le virtualise. Alors nous, humains, avec notre cerveau, on virtualise l'environnement. Mais même l'animal, de manière générale, dans son processus de développement embryonnaire, il y a une phase dite de gastrulation, il se referme sur lui-même. Alors là, il est condamné pour finalement vivre dans une bulle jusqu'à la fin de sa vie. La plante, c'est tout le contraire. Bernardin Saint-Pierre disait qu'une plante a les organes au dehors, comme un animal les a au dedans. La plante est totalement ouverte. D'ailleurs, d'un point de vue simplement morphologique, une plante, ce n'est qu'un ensemble de surfaces.
C'est ça. Et c'est cette extériorité que vous explorez beaucoup aussi dans cet ouvrage, par rapport au monde animal, précisément.
C'est ce qui fait vraiment l'une des différences principales. Et c'est en continuité avec cette capacité d'aller puiser jusqu'à la lumière. Finalement, la plante se prolonge dans son environnement. Elle échange des informations avec cet environnement, elle est capable de le façonner, de produire du microclimat, de produire des sols, et puis tout un tas d'interactions, de produire évidemment des ressources pour quantité d'animaux. Donc la plante est capable de se prolonger de sorte qu'elle bénéficie de fonctions dont elle ne dispose pas et qu'elle va aller chercher ailleurs.
Ouais. Écoutons la voix de Francis Allais, c'était en 2013, voilà ce qu'il dit entre autres autour des plantes.
En ce qui me concerne, j'ai pris la décision depuis très longtemps déjà de travailler dans les régions du monde où il y a le plus de plantes, là où elles ont le plus donné de diversité. Là où je travaille dans les forêts équatoriales, et là, il y a des exemples incroyables. Je n'y vois toujours pas d'intelligence, c'est bien meilleur que de l'intelligence. Quelqu'un d'intelligent, il peut se tromper. Avez-vous vu une plante déjà qui se trompe? Moi, je ne pense pas.
Voilà, il est radical quand même, Francis Allais, justement.
Il est radical, absolument, oui.
Il est amoureux fou, surtout.
Oui, j'étais un peu... Je l'ai rencontré sur une forêt du Gabon.
Ouais. Dans ce milieu qu'il décrit.
Dans ce milieu qu'il décrit, oui.
La forêt tropicale.
Oui. Et là où, pour la première fois, on m'a parlé de la conversation entre les plantes, d'une certaine façon, à travers la timidité des arbres. Et des arbres qui sont du même âge, de la même espèce, qui au bout d'un certain moment de maturité se rapprochent l'un de l'autre par la croissance, mais ne se touchent pas, ne s'interpénètrent pas. Et il y a une sorte de lumière qui est entre les deux qu'on appelle une fissure de timidité. Les scientifiques sont des poètes.
Ben oui, oui. C'est magnifique.
Et là, je suis sur un projet dont il fait partie, Francis, qui est à Cargèse, le centre au CNRS de Cargèse, en Corse. On m'a demandé un aménagement paysager, mais on m'a demandé en même temps un protocole de recherche scientifique associé à mon métier. Alors j'ai dit, conversation entre les plantes. Ils ont dit oui. Il y en a quatre chercheurs, dont Francis, qui se sont inscrits là-dessus.
Oui, la fissure de timidité. Alors ça, on va retenir ce terme.
Oui. Et là, dans le livre de Jacques... Moi, j'étais émerveillé parce que je trouve que son utilité était absolument incroyablement importante et j'en parlerai chaque fois que je le pourrai parce que on manque de ce genre d'informations.
Absolument.
On manque d'une assistance puissante des chercheurs dans un métier comme le nôtre. Moi, je dis jardinier, mais enfin, ça peut être d'autres métiers qui sont en rapport avec le vivant. Et là, on commence à en avoir.
Ouais. Et vous avez écrit 125 pages absolument extraordinaires, efficaces et qui vraiment nous ouvrent les yeux sur ce monde végétal, Jacques Tassin.
Merci.
Est-ce qu'on n'a pas tendance quand même à faire de l'anthropomorphisme? Parce que là, j'entends Gilles Clément qui parle de timidité des plantes, donc tout ça est très beau et très poétique, effectivement. Mais est-ce qu'il n'y a pas un petit excès aussi là, quand même, dans cette façon dont on perçoit le monde végétal parfois?
Tout est dans la dose, c'est comme on dit, c'est la dose qui fait le poison. Un petit peu d'anthropomorphisme, pourquoi pas, parce que effectivement ça permet de finalement d'ouvrir des portes qu'on hésite à ouvrir, à avoir des voies de réflexion nouvelles. Après, il faut pas tomber dans le piège que ça représente, et le plus grand des pièges, c'est d'imaginer qu'une plante soit à l'image de l'animal. Avant de faire de l'anthropomorphisme, faire du zoocentrisme. Et c'est se tromper du tout au tout, parce que pour reprendre ce que disait Francis Allais, et puis non pas ce qu'il vient de dire à l'instant, mais ce qu'il a dit dans d'autres occasions, c'est que le végétal et l'animal, ce sont des chemins de vie totalement différents. qui n'ont, bah, évidemment, ce sont des êtres vivants, donc il y a des choses en commun, mais qui ont exploré le monde de manière totalement différente.
Et le phytocentrisme, alors, dans tout ça, c'est quoi?
Le phytocentrisme, ça serait, dans le meilleur des cas, comme vous le disiez, pouvoir être capable de se mettre dans la peau d'une plante.
Ouais.
Mais on peut l'apprendre, évidemment, on n'y arrivera jamais, mais mieux vaut avoir ça en perspective que du zoocentrisme. Et ça remonte à très très longtemps, ça remonte à Aristote.
Marc, sur franceinter.fr, Gilles Clément pose cette question. Est-ce qu'une plante souffre lorsqu'on la coupe? Que répond le jardinier?
Le jardinier répondrait, une plante signale qu'elle a été touchée.
De quelle façon?
Elle peut émettre des courants électriques au bout de ses racines, on peut l'enregistrer et le voir sur un écran. On peut mesurer des signaux qui sont que elle n'est pas restée indifférente, au sens avec guillemets quand même, à cet acte physique, qu'il s'agisse d'une taille ou quelque chose d'autre. Le fait seulement de la toucher, elle va aussi réagir de cette façon.
Mais de là à parler de souffrance, Jacques Tassin,
il faudrait un système nerveux quand même pour parler de souffrance, quoi. Et puis ça serait intéressant, la souffrance, si on est en présence d'un organisme vivant qui est capable de se soustraire à la souffrance, c'est-à-dire qui est mobile. Là, c'est pas le cas. Et pour un organisme vivant qui ne dispose pas de capacité de fuite, la souffrance n'a pas d'intérêt au sens évolutif.
Du mois de septembre au mois d'août, faudrait des bottes de caoutchouc pour patauger dans la gadoue. Les gouttes d'eau me dégoulinent dans le dos. Nous pataugeons dans la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue. Ouh, la gadoue, la gadoue. Vivons un peu sous ciel gris bleu d'amour et d'eau de pluie. Mettons en marche les essuie-glaces. Ça nous changera pas d'ici. Nous garderons nos parapluies. Nous retrouverons la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue. Ouh, la gadoue, la gadoue. Il fait un temps abominable. Heureusement, tu as ton imperméable. Ça n'empêche pas la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue. Ouh, la gadoue, la gadoue. Il fallait venir jusqu'ici pour jouer les amoureux transis et patauger dans la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue. Ouh, la gadoue, la gadoue. Vivons un peu sous ciel gris bleu d'amour. Mettons en marche les essuie-glaces et rentrons à Paris. L'année prochaine, nous irons dans un pays où il fait bon et nous oublierons la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue.
Et Pétula Clark, à l'instant.
La tête carrée. Sur France Inter.
Dialogue avec les plantes cet après-midi pour tenter de mieux les comprendre avec Jacques Tassin, ce livre À quoi pensent les plantes chez Odile Jacob, et puis Gilles Clément, auteur d'un autre ouvrage, Jardin, paysage et génie naturel au Collège de France. Et puis les messages des auditeurs, c'est Eric qui a réagi à ce que vous disiez, Gilles Clément, sur cette fissure de timidité. Il dit, moi je constate pas du tout de fissure de timidité dans mon verger, bien au contraire. Cette timidité, demande-t-il, est-elle présente seulement sur certaines espèces?
Oui, c'est présent sur un nombre assez restreint d'espèces. On dit, on trouve à peu près une centaine. Beaucoup sont tropicales. Chez nous, il y aurait un chêne vert dans son stade climatique, dans un certain endroit d'une forêt en France, resté un peu protégé.
Très peu, hein, vraiment.
Très peu chez nous, oui. Où là, on peut le voir vraiment. Mais sinon, c'est plutôt tropical.
Ouais. Ouais. Claude Jacques Tassin demande, depuis combien de temps les plantes sont-elles considérées comme sensibles, alors?
Depuis, en fait, relativement peu de temps, Aristote, lui, refusait de voir une sensibilité chez les plantes, alors que son prédécesseur, Platon, lui, il considérait que c'était envisageable. Il a fallu attendre ensuite le XVIIIe siècle pour que des gens, des chercheurs, des scientifiques, parfois des philosophes même, se rendent compte que les plantes étaient capables de réagir à la lumière, de réagir à la gravité, de réagir à des gradients hydriques, chimiques, etc. Quoi. C'est venu assez lentement.
Ouais. La famille Darwin, elle a permis de poser un autre regard sur le monde végétal. Hein.
Oui, complètement.
Et là, pas seulement Charles, avant lui.
Voilà, son grand-père Erasmus, et puis après son fils Francis.
Oui.
Qui avait quand même une vision assez zoocentriste aussi. Darwin, c'était quand même un zoologue avant toute chose. Alors, sur la fin de sa vie, il a écrit plusieurs livres sur les plantes, sur les mouvements des plantes.
Oui.
Mais il a cherché, finalement, chez les plantes, ce qui ressemblait le plus aux animaux, et notamment en s'intéressant aux mouvements des plantes.
À la mobilité végétale.
À la mobilité, hein, et aux plantes carnivores qui ressemblaient beaucoup aux animaux. Voilà.
Oui.
Donc, il a quand même une teinte très animale, Darwin. Oui.
Gilles Clément, justement, cette perception des plantes et le monde de l'écologie plus largement, vous dites à quel point c'est une science mal aimée aujourd'hui. On est tellement à côté de la plaque.
Mais c'est qu'elle a été transformée en quelque chose qui est un message plutôt politisé avec une ignorance réelle sur le monde vivant qui est fort inquiétante. Vous mettez quelqu'un du ministère de l'Environnement dans l'environnement, il meurt en 3 jours, il ne sait pas se nourrir.
Vous le lâchez dans une forêt tropicale.
Mais oui, mais c'est ça le drame.
Tous,
ça n'est pas enseigné dans le cursus normal d'un étudiant tous azimuts. On n'a pas besoin de spécialiser pour ça. On devrait savoir où on habite.
Ouais.
Et pour commencer, savoir nommer ce qui est autour de nous. Ça n'existe pas.
Ouais. Et donc, vous
tout est à faire,
militez pour, évidemment, l'éducation
au minimum,
à la nature.
Après, on prend les dispositions qu'on veut. Si on veut se suicider, on le fait, quoi. Donc, on tue tout l'environnement et soi-même à la fin. Mais sinon, on peut faire autrement.
Ouais. Parce que nous sommes tous des jardiniers, au fond.
Mais bien sûr.
Ouais.
Ça, c'est la vision du jardin planétaire.
C'est ça.
Que nous le voulions ou non, nous intervenons sur cette planète qui est un espace clos. C'est ça, la finitude spatiale et biologique. La vie est dans les limites de la biosphère. Et chaque geste que nous faisons a une répercussion. Et l'eau que nous buvons a déjà été bue et elle nous retombe sur la tête.
Ouais.
Aussi par des humains.
Ouais.
Donc on est dans la même lessiveuse, on a intérêt à faire gaffe.
Et à bien jardiner.
À bien jardiner.
Tant qu'à faire. Hein. Vincent demande, l'eau n'aurait-elle pas un rôle dans la transmission et la forme des informations entre les plantes, Jacques Tassin?
Pas à ma connaissance, non. Les informations sont transmises via des substances chimiques essentiellement. Pas de manière délibérée d'ailleurs. Hein. Les informations qui sont produites par une plante sont d'abord produites pour elle-même. Sauf si elle veut alerter, si la plante en question qui est agressée veut alerter...
Citez-nous quelques exemples, parce que ça c'est absolument incroyable.
Oui, l'exemple qui est le plus connu, qui a été découvert assez récemment, c'est la chenille du sphinx du tabac. La chenille du sphinx du tabac, lorsqu'elle agresse le tabac, celui-ci émet une hormone qui voyage dans les airs et que une punaise sait reconnaître. Et de cette analyse de cette substance, la punaise va jusqu'à savoir de quelle chenille il s'agit. Et donc, elle sait que c'est une chenille dont elle peut s'alimenter. Tout cela parce que la salive de la chenille est passée dans les cellules végétales, a interagi avec la synthèse de diverses enzymes et différents composés volatiles qui ont été donc infléchis, dont la synthèse a été infléchie, ce qui a permis l'arrivée de cette punaise prédatrice.
Ouais.
C'est effectivement formidable.
Donc ça veut dire qu'il y a une communication aussi entre différentes espèces végétales?
Alors, entre espèces végétales et espèces animales, de manière délibérée, oui. Entre espèces végétales, souvent, c'est, comment dire, plus de manière opportuniste, c'est-à-dire que la plante a plusieurs moyens de communiquer entre elles, donc via des signaux électriques, via des hormones qui circulent dans des tissus conducteurs, le phloème, ou alors via des substances chimiques transmises dans les airs. On appelle ça des VOC, des Volatile Organic Compounds, mais qui évidemment se promènent dans l'air, donc qui peuvent très bien être captées par une plante voisine qui va profiter de l'information qui a été fournie.
Oui, vous parlez des grands acacias africains, par exemple. Hein, lorsque de grands herbivores arrivent, il y a quasiment un coup de sifflet des acacias pour prévenir les copains et les copines alentours.
C'est un peu vite dit.
Non, mais je résume grossièrement, je suis d'accord. Mais oui, c'est un peu de ça dont il s'agit, quand même.
Vous résumez ce qu'on entend, effectivement. Mais c'est malheureusement excessivement résumé. Alors c'est vrai qu'il y a un côté très 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 sexy, on va dire, dans cette histoire, quoi. Mais les acacias en question, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont agressés par un herbivore et ils produisent. Donc quelques feuilles sont agressées par un herbivore. Donc le but, c'est d'informer la plante en entier, l'ensemble du feuillage, pour produire des tanins qui bloquent la digestion finalement de cet herbivore. Mais ce faisant, bon, encore une fois, cette substance volatile peut aller sur une autre plante, oui. Et ces plantes vont être opportunistes, évidemment, elles vont profiter de cette information et elles vont réagir de cette même manière. Mais il n'y a pas de transmission d'information délibérée, oui, d'une plante à une autre. Mais néanmoins, c'est un fait, ça existe.
Ouais. Avec des substances qui sont clairement répertoriées, hein, lors, oui, d'attaques d'insectes par exemple, plus de 1000 dans certains cas. Oui. Donc là, on est dans du concret. Hein.
Ah mais tout à fait.
Il se passe des choses tout à fait particulières en cas de stress ou de menace, en tous les cas, Gilles Clément.
Oui, enfin, on est dans la réalité du jardin au sens large. On n'est pas du tout sur un terrain de spéculation. On n'est pas en train de faire des hypothèses, on est dans ce qui se passe. C'est ça, là. Je ne sais pas, il faudrait repenser le modèle de l'économie aussi, comment pourrait-on faire pour se rapprocher d'une forme d'intelligence économique de la nature qui va dans la non-dépense, par exemple.
Oui.
Elle ne fait pas quelque chose qui ne lui sert à rien, elle n'accumule pas des choses qui sont inutiles, elle se défie de ça. Ce serait très intéressant de prendre quelques leçons.
Mm-hmm. La tomate qui réagit très très vite, Jacques Tassin, par exemple, hein, en une heure, je crois qu'il y a une réaction, en cas là aussi d'attaque d'insectes.
Oui, c'est ça. Et donc, elle est capable de transmettre la formation, mais encore une fois, de manière non délibérée, d'une plante à une autre. Ouais. Il y a aussi des plantes parasites qui sont capables de reconnaître la tomate. Et lorsqu'on essaie de subtiliser la tomate par un tuteur recouvert de l'odeur de la tomate, elle peut aussi s'orienter vers ce tuteur parce qu'elle a reconnu l'odeur de la tomate.
Ouais. Les réseaux de racines, ça aussi c'est absolument passionnant, hein, ce qui se passe évidemment sous le sol, et en général des réseaux qui sont gigantesques parfois, hein, sur des arbres d'ailleurs qui n'ont pas forcément une taille très très importante, mais dont le réseau racinaire est extrêmement développé.
Oui, et en plus des racines qui sont capables de s'interconnecter, alors rarement directement, mais par le biais de mycélium, donc de champignons souterrains, qui font que il y a même du matériel génétique qui circule d'une plante à une autre.
Via les racines.
Voilà, via les racines et ces filaments mycéliens. Donc c'est une sorte de réseau. Alors évidemment, on peut faire la comparaison avec, oui, un réseau Internet. Et la question qu'on peut se poser, finalement, où s'arrêtent les limites d'un végétal? Parce que où est la fin, sachant qu'il est capable de se... Ben finalement de se continuer, oui, dans d'autres organismes qui finalement malmènent ses frontières.
Justement.
Oui. Ben, un végétal, oui, il peut pas bouger, donc il a intérêt à avoir des modes de communication
très élevés.
On le met au sens large de ce, oui, terme-là, très très élevé. Et si on savait toute la biomasse, alors on en parle de ça, de biomasse à propos du monde végétal chlorophyllien apparent qu'on voit. Mais il y a aussi tout ce qui se passe en dessous, qui est la terre, qui est absolument considérable. En plus du monde végétal, il y a aussi tout un monde animal. Et je trouve là extrêmement criminel de stériliser les sols aujourd'hui avec les façons de culture conventionnelles telles qu'on les a. Remettre la vie dans le sol est une des urgences.
Oui, parce que justement, à partir de quoi on voit qu'un le végétal meurt en fait? Qu'est-ce qui indique la...
Là, il n'est pas question
d'un organisme
végétal. Si on pense que là, Jacques en dira plus que moi là-dessus, mais moi, je pense plutôt au sol stérilisé, tout simplement. Et là, les végétaux ne meurent pas. On cultive une seule espèce qui, oui, est assistée par totalement, hein, aussi bien par l'apport de l'eau que l'apport de la nourriture. Le sol n'est plus qu'un substrat. Ça n'est pas un milieu vivant du tout.
Oui.
Alors que dans le milieu normal, il est très vivant et très complexe. Et ce qu'il y a dans le sol est tout à fait riche, en plus de champignons qui jouent un rôle énorme.
Et Jacques Tassin, donc, pour...
Alors là, c'est vraiment un domaine qui, pour l'instant, nous échappe. Bon, déjà, il nous échappe un peu pour nous, quand même. Qu'est-ce que c'est que la mort? Alors, la mort d'un végétal, c'est, oui, d'autant plus compliqué qu'un arbre, par exemple, on s'aperçoit que c'est à la fois singulier et pluriel. C'est-à-dire, bon, pour dire les choses peut-être de manière un peu plus excessive, c'est un être intégré, mais c'est aussi une colonie que sont les bourgeons. Bon, on peut aller un petit peu, il faudra nuancer un petit peu cela. Mais alors du coup, où est la mort? Est-ce que c'est la mort des bourgeons? Et puis on sait bien que ça met longtemps à mourir un arbre. Hein.
Oui.
Là, moi, je pense à un très beau livre de Pierre Gascard, donc le romancier sur le végétal, où il raconte comment il avait voulu tuer un saule dans son jardin, et il y a mis des années parce que finalement il le croyait mort, mais non, le saule repartait, quoi. Donc on sait pas, on peut pas dire à quel moment un arbre est mort.
Oui, je suis d'accord là.
Allez, on se retrouve comme ça dans un instant avec les questions des auditeurs qui nous rejoignent.
All I need is 5 minutes, if you can see the signs. All I need is 5 minutes, if you read between the lines. One for the eyes and one for the voices. One for the touch, one for the soft grin, and then the kisses. And then the kisses. Start the ignition. All I need is your look to hang my imagination. All I need is your view to picture your position. We could get away, ride horses, sail on the bay, drink from the sources, and then the kisses following courses. Like a butterfly effect, one hit of a cigarette, mistakes you don't regret. All I need is 5 minutes, like a drug side effect, like a ride on a rocket, the love you don't expect. All I need is 5 minutes.
Her, 5 minutes, et c'est sur France Inter.
Hélas, chez les plantes comme chez les hommes, il y a aussi des asociaux. Par exemple, le stapelia, qui est une fleur du désert. Pour attirer les mouches, sa fleur émet une odeur de viande avariée. Les mouches se précipitent et pondent leurs larves dans les ovaires du stapelia, croyant qu'elles vont y éclore. Et pendant cette opération, la fleur s'arrange pour être pollinisée. Mais elle n'offre aucune nourriture en échange aux enfants de la mouche. Et les laisse mourir. C'est de l'escroquerie et du meurtre.
Voilà, c'est 1982 pour ce documentaire de l'escroquerie et du meurtre. Voilà les termes qu'on emploie, hein, Jacques Tassin.
Ça, c'est de l'anthropomorphisme.
Exactement.
Évidemment, quoi. Ouais.
Mais ça raconte quand même quelque chose de particulier.
Ah, tout à fait, qui est réel. Bon, il y a un autre exemple, c'est une grande orchidée.
Qui est championne du monde de la Duprise.
En Asie. Bon, c'est pas mal ce qu'elle fait, oui. Elle imite. Donc sur son label, donc qui est un des le pétale central, la forme et la couleur de pucerons.
Oui.
Et donc elle fait venir de cette manière-là des cirfes qui vont pondre de manière à ce que leurs larves s'alimentent de ces pucerons, de ce que cet insecte croit être des pucerons. Mais c'est encore plus raffiné que ça parce que la même plante sécrète des hormones de stress qui sont produites par la plante en présence de pucerons. Ouais. Et le cirf sait interpréter ça.
C'est ça.
Donc il est doublement trompé, quoi.
C'est ça. Tromperie, mimétisme. On a absolument toutes les gammes, hein, au fond, hein, dans la nature. Il suffit de se pencher, Gilles Clément. Et...
Oui, mais il y a des choses aussi extraordinaires comme le saracenia, qui est une plante carnivore venue des États-Unis, qui est dans nos marais aujourd'hui et qui va attirer un insecte. Qui est le frelon que tout le monde déteste aujourd'hui, à pattes jaunes, parce qu'il est soi-disant étranger, venu d'Asie, et qu'il attaque les abeilles, ce qui est vrai aussi, bien sûr.
Ouais.
Donc c'est intéressant de constater qu'une plante américaine vient réguler la population d'un insecte asiatique en Europe.
Sur les dionées, justement, sur les plantes carnivores, Julien demande, est-ce qu'elles ont une sensibilité mécanique? Alors, les plantes carnivores en général, l'exemple des dionées en particulier?
Bah, c'est ce qu'avait étudié Darwin avec déjà, collègue médecin, Gordon Sanderson. Et donc, il avait observé que sur les poils de la feuille de la dionée, si on stimule un seul des poils, on n'a pas d'action de reploiement de la feuille. Il faut en stimuler plusieurs, comme le ferait un insecte. Et donc, ce sont des informations de nature électrique qui permettent d'actionner la fermeture de la feuille.
Mais ça va très vite.
Ça va très vite.
C'est des mouvements ultra rapides dans le
règne végétal. Oui, c'est un dixième de seconde.
C'est ça.
C'est les mouvements les plus rapides. Bon, cela étant, ça focalise l'attention sur ces mouvements qui font penser aux mouvements des animaux. C'est pour ça que Darwin s'y était intéressé. Mm-hmm. Il y a des mouvements beaucoup plus lents, mais tels que la croissance. Parce que la croissance d'un végétal, c'est un mouvement pour appréhender l'espace, pour faire en sorte que finalement le déploiement des feuilles soit optimal pour optimiser la captation de la lumière dont la plante dépend.
Avez-vous déjà entendu parler de musique des plantes, demande Pascal Gilles Clément. Alors vous, dans votre jardin, vous entendez des symphonies?
Non, j'entends la musique, la musique du vent dans les plantes et le cri du pique-noir qui est un peu pleuré et qui, lui, on sait que c'est un oiseau et pas une plante. Mais là, je ne sais pas ce qu'en pense Jacques. Elle chante?
Non, pour avoir une sensibilité à la musique, il faut avoir une culture, il faut avoir un cerveau, il faut avoir toute une sensibilité dont les plantes, les cellules végétales, puisqu'en fait il n'y a pas d'organes sensoriels chez les plantes, ne disposent pas. Et on peut rêver, mais c'est un peu dommage de rêver dans des mauvaises directions. Alors il y a eu un livre en 73 qui avait été publié par une américaine là-dessus, qui a eu beaucoup de succès, mais en réalité toutes ces expérimentations n'ont jamais pu être reproduites. Ce qu'on est certain, c'est qu'une plante est sensible aux vibrations. Mmh. Et la musique apporte des vibrations. Mmh. Mais de là à dire qu'une plante puisse préférer la musique traditionnelle indienne au hard rock...
Bon, donc faire écouter Mozart à ses tomates, Gilles Clément, ça ne sert pas à grand-chose.
Non, mais la question des vibrations est une question sérieuse. C'est-à-dire que la façon de vibrer peut-être aider une plante, comme elle peut-être lui être nuisible, tout à fait. Alors, quel est le bon rythme, quoi?
Les plantes sont soumises à des forces mécaniques comme le vent, justement. Est-ce que les plantes peuvent anticiper les déformations, demande Pauline?
Alors, anticiper les déformations, non, mais les subir et les interpréter, certainement. Et il y a un travail d'un scientifique de l'INRA, de Clermont-Ferrand, Bruno Moulia, qui travaille là-dessus. Et pour nous, paysagistes, ça donne des sculptures, le vent. Hein. Là, en bord de mer, les végétaux sont anémomorphosés, c'est-à-dire formés et transformés par le vent.
Oui, on voit
et
bien,
constituent des architectures que nous serions incapables
de
fabriquer, quoi.
Ouais. Et justement, les arbres pleureurs comme le saule ou les hêtres, demande Valérie, est-ce qu'ils sont le résultat d'une déformation mécanique? Qu'est-ce qui explique
Oh, alors là, ça, je saurais pas dire ça. C'est un comportement qui permet aux végétaux de fabriquer d'une emprise dans l'espace qui est tout à fait particulière et qui leur convient. D'autres vont se débrouiller plus en haut et d'autres plus en bas. J'irai pas beaucoup plus loin.
Ouais, Jacques Tassin?
Moi non plus.
Non plus. Encore des choses à découvrir.
Ah,
donc,
ben là, c'est le moins qu'on puisse dire.
Il y a beaucoup de choses à faire d'ailleurs pour les jeunes générations.
Mais non, mais tout là,
ils veulent s'engager dans ce domaine-là.
S'il y a des jeunes qui écoutent là, c'est très
important. Il y a du boulot
important.
Là, de recherche.
Tout est à recommencer à partir d'une préséance du vivant. Au lieu de se laisser illusionné par les artifices, la mécanique et notre idée de la maîtrise. Quelle est la maîtrise qui a été fabriquée, qui n'est pas une maîtrise d'ailleurs, mais l'interprétation qui a été fabriquée par le vivant depuis longtemps? Est-ce que nous pourrions, nous, en savoir un peu plus là-dessus?
Ouais. Jacques Tassin, encore un mot qu'on prête aux humains, dont on parle beaucoup, bien sûr, c'est la mémoire. Il y a énormément de travaux sur la mémoire humaine. Mais alors, du côté des végétaux, qu'est-ce qu'on sait de cela? Est-ce qu'il y a une transmission d'informations?
Alors, là encore, il faut éviter de jouer sur les mots et puis finalement laisser libre cours au fantasme. Avoir de la mémoire, c'est être capable de se rappeler d'un événement qu'on tient pour événement passé. Les plantes ne sont pas capables de faire ça. Il faut un cerveau, encore une fois, pour le faire. Cela étant, il peut y avoir des phénomènes qui font penser à la mémoire, mais qui n'en sont pas, mais qui sont davantage des traces.
C'est-à-dire?
Alors, par exemple, je peux vous donner l'exemple que je vous ai donné sur la dionée tout à l'heure, puisqu'il faut au moins de 20 secondes entre deux stimulus des poils de la feuille de la dionée, on peut se dire, ben finalement, la plante a mémorisé le premier stimulus sur le premier poil avant de répondre. En réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est une onde électrique, une onde de dépolarisation, donc qui circule de cellule en cellule, mm-hmm. une vague d'ion calcium, enfin peu importe, qui se propage et puis qui s'atténue dans le temps. Mais si les deux stimulus sont proches dans le temps, cette première vague n'a pas le temps de s'estomper tout à fait. Une seconde vague vient se surajouter à la première. Donc la trace, mais non pas la mémoire, la trace de la première vague est encore là. Et la plante va déclencher un mécanisme qui va entraîner la fermeture de la feuille.
Donc le choix des mots est important.
C'est malheureux d'utiliser des mots qui finalement nous trompent. Hein. Albert Camus disait « mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ».
Gilles Clément, comment on met au point ce jardin planétaire, au fond? Comment on s'y prend?
On ne met pas au point. On est dans l'emprise de l'enclos. On agit en essayant de comprendre là où on est. Donc, en analysant la situation dans laquelle on se trouve. C'est ça qui nous rend intelligents. C'est qu'on a tout à coup l'intelligibilité du contexte. Et à partir de ça, on décide. Est-ce qu'on continue à polluer ou est-ce qu'on continue pas à polluer? Est-ce qu'on va utiliser cette piloselle qui émet un courant électrique au bout de ses racines quand elle passe pour se désherber? Est-ce qu'on va désherber avec une plante qui fabrique ça? On sait pas le faire, hein, pour l'instant. Ou est-ce qu'on va utiliser un produit qui tue toutes sortes d'autres choses que ce qu'on veut tuer et qui crée des dégâts fous? Bref, on peut choisir. Mais à partir du moment où on aura compris. Or, pour l'instant, on n'a pas les éléments pour le faire. Donc, il y a nécessaire d'instituer un ministère de la connaissance un peu élevé.
C'est ça, un vrai projet politique, hein, d'écologie humaniste. On l'entend évidemment dans vos paroles. Gilles Clément, Jardin, Paysage et Génie Naturel, Collège de France et Fayard, et puis Jacques Tassin. Ouvrage également passionnant. À quoi pensent les plantes chez Odile Jacob? Merci infiniment à tous les deux.
France Inter, santé polémique avec le docteur Dominique Dupagne.
Attention, je vais piquer.
Et ça va piquer au sens propre, en effet, puisqu'aujourd'hui, Dominique, bonjour d'abord.
Bonjour Mathieu.
Vous nous parlez des vaccins et de la confiance qu'ils inspirent aux Français.
Bah oui, Mathieu, comme tous les ans, le syndicat de l'industrie pharmaceutique publie les résultats de son observatoire sociétal du médicament. C'est un sondage Ipsos. La presse a pas mal commenté le résultat le plus étonnant de ce baromètre. Les Français font désormais plus confiance à l'homéopathie qu'au vaccin. 73% des Français font confiance à l'homéopathie contre 69% pour les vaccins. Et je trouve ce résultat riche d'enseignements.
Ouais, lesquels alors?
Bah, le mot confiance, il a deux sens en fait. On peut avoir confiance dans l'efficacité ou dans l'innocuité d'un médicament. Et j'ai l'impression que les Français qui refusent les vaccins sont très rares, de même que ceux qui ne se soignent à l'homéopathie sont très rares. Et finalement, ce sondage, cette supériorité de l'homéopathie signifie que les Français privilégient la sécurité sur l'efficacité.
Ça vous étonne ça, Dominique?
Bah, pas du tout. D'autant que le principe historique de la médecine, c'est primum non nocere, qui signifie avant tout ne pas nuire. Alors, j'ai cherché en vain des traces d'un scandale sanitaire récent ayant concerné l'homéopathie.
Ah oui, c'est vrai ça.
Eh bien, rien.
C'est vrai.
Pas le moindre granule frelaté ou surdosé en arsenic. Alors, bien sûr, j'entends d'ici sursauter mes confrères. Évidemment.
Intoxication à l'arnica, non, ça n'existe
non,
pas.
Non, on n'a pas eu ça. Bon, ça pourrait, mais il n'y en a pas eu. Bon, évidemment qu'un placebo ne peut pas avoir d'effet indésirable puisque c'est du sucre. Mais quoi que l'on pense de l'efficacité intrinsèque des remèdes homéopathiques, ils ne sont pas toxiques. Pour les vaccins, l'environnement est totalement différent.
C'est-à-dire?
Bah, le premier handicap des vaccins pour la confiance, c'est le traumatisme, la piqûre que l'on inflige à son enfant pour le protéger d'un danger futur. Il faut quand même une foi totale dans la médecine pour accepter qu'on fasse du mal à son bébé. Or, les affaires récentes ont entamé la confiance dans l'intérêt et surtout dans l'innocuité de certains vaccins. Je pense notamment à la vaccination contre la grippe H1N1 de 2009, car finalement c'est la première fois que les Français ont pu constater que les autorités sanitaires, à commencer par la ministre de la Santé, s'étaient clairement fichues de leur tête. Et puis, il y a eu la médiatisation, hein, vous souvenez, des effets secondaires rarissimes, mais parfois graves, du vaccin Gardasil contre le cancer du col de l'utérus. Or, les vaccins souffrent d'un deuxième handicap, c'est leur efficacité.
Ah bon? C'est un handicap, ça?
Bah oui, vous allez voir, c'est paradoxal, mais ils ont fait disparaître la menace. Ils ont fait disparaître les maladies qu'ils combattent. Le tétanos et la diphtérie, il n'y en a plus. Moi, je suis né en 58 et j'ai croisé les derniers enfants polio quand je sortais de maternelle en primaire. Alors, c'est un double handicap, finalement, pour les vaccins, qui explique, à mon avis, ce déficit de confiance des Français. Car la confiance, ça ne se décrète pas, ça se mérite. Ça suppose une totale transparence de la part des autorités sanitaires et une une écoute attentive des inquiétudes du public. Le dogmatisme et le paternalisme actuels sont contre-productifs. Exagérer l'intérêt de certains vaccins ou minimiser leurs risques, déjà très faibles, donne des armes aux complotistes qui sont très actifs sur le web. En fait, j'espère vraiment que la grande concertation démocratique lancée par Marisol Touraine ne se transformera pas en mascarade, car la crise de confiance des vaccins ne ferait alors qu'empirer.
Et je vous fais confiance pour suivre ça de très près. Hein. Merci Dominique, à la semaine prochaine. Et puis une petite parenthèse, pour tous ceux qui n'ont pas vu le documentaire sur le cholestérol, vraiment je les invite à le visionner. Je l'ai vu et il est encore en visionnage sur le site d'Arte. Il
a fait,
et vous y figurez avec une histoire assez édifiante, on le verra. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.